Bonjour à toutes et à tous, ici Marie-Laure Méolens et bienvenue dans le nouvel épisode de Droit Devant, le droit du travail innovant. Droit Devant, c'est un podcast consacré au droit social. Et c'est ma manière d'apporter des conseils concrets sur cette matière technique et mouvante qu'est le droit du travail. L'épisode d'aujourd'hui va être consacré à un dispositif qui intéresse particulièrement les salariés qui viennent me consulter au cabinet. C'est un épisode qui est riche et qui va donc être scindé en deux parties. Aujourd'hui, je vais donc aborder la présentation de ce dispositif, vous expliquer quelles en sont les étapes et aussi les garanties qui vont permettre aux salariés d'accepter parfaitement librement le principe de la rupture du contrat de travail, de la rupture conventionnelle. Et puis également l'hypothèse dans laquelle le consentement n'aurait pas été préservé et à ce moment-là d'étudier la manière de faire annuler une rupture conventionnelle qui ne garantirait pas vos droits. Alors, la rupture conventionnelle, qu'est-ce que c'est ? C'est un dispositif qui permet à l'employeur et aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée, eh bien, de décider ensemble de rompre le contrat de travail. En pratique, cela se matérialise par un formulaire qui est appelé convention de rupture et qui va être soumis, une fois qu'il aura été signé par les parties, qui va être soumis à l'homologation de l'administration, c'est-à-dire de la direction du travail. Pour être valable, la rupture conventionnelle suppose la liberté totale de consentement des deux parties. Ça signifie que la rupture conventionnelle ne peut absolument pas être imposée aux salariés dont on viendrait à obtenir le consentement sur la base, par exemple, d'informations erronées ou d'une fraude quelconque, ou bien encore en exerçant des pressions, qu'elles soient physiques, bien évidemment, mais aussi morales. Dans ce cas-là, eh bien, la rupture conventionnelle ne serait pas valable. Alors, est-ce que l'existence d'un désaccord entre le salarié et l'employeur va empêcher les parties de signer une rupture conventionnelle ? Non, pas forcément. Et en réalité, ça dépend beaucoup de la nature du désaccord. Si on voit qu'il y a une quelconque forme de harcèlement ou de violence morale, psychologique, qui est exercée sur le salarié qu'on considère être la partie faible au contrat, eh bien, une fois la rupture signée, le salarié pourrait évidemment obtenir la nullité de cette convention de rupture conventionnelle. Alors, la nullité, ça signifie que le salarié serait considéré comme ayant été licencié de façon injustifiée. Et cela ouvrirait droit non seulement aux indemnités de rupture qui résultent du barème Macron, mais également à des dommages et intérêts supplémentaires si la rupture était intervenue dans un contexte particulier. Je fais notamment référence à une situation de harcèlement moral. Dans un tel cas, et pour agir en nullité de cette rupture conventionnelle, eh bien, la loi pose un délai de 12 mois, un délai dans lequel le salarié doit saisir le conseil de prud'homme à compter de la date d'homologation de la rupture, c'est à compter de ce moment-là que court le délai de contestation. Donc, on voit bien que le sujet de la validité du consentement est très important dans le processus de la rupture conventionnelle. Et pour s'assurer que le consentement a été donné de manière libre et éclairée, eh bien, il y a une procédure particulière qui va s'appliquer. Donc, vous êtes dans la situation où votre employeur vous a proposé une rupture conventionnelle. Vous êtes d'accord avec le principe, mais néanmoins, vous vous demandez comment cela va se passer. Eh bien, concrètement, la convention de rupture va être négociée au cours d'entretiens pendant lesquels vous allez pouvoir vous faire assister par un salarié de l'entreprise ou par un représentant du personnel. Alors, sur les modalités d'assistance, je vous renvoie au précédent épisode du podcast qui porte sur l'entretien préalable parce que les modalités d'assistance dans le cadre de la rupture conventionnelle sont les mêmes que celles qui s'appliquent dans le cadre d'une procédure de licenciement. Sur le nombre de ces entretiens, un seul entretien suffit. Il peut effectivement y en avoir plusieurs, mais ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire que, à l'issue d'un seul entretien, l'employeur peut vous demander de signer la rupture conventionnelle. Et comme l'assistance n'est pas obligatoire non plus, elle est optionnelle, donc vous avez la possibilité de vous faire assister par quelqu'un, mais ce n'est pas une obligation. Eh bien, à l'issue d'un seul entretien sans assistance, vous pouvez être sollicité par votre employeur pour signer le formulaire de rupture conventionnelle. Donc, ce qui est une procédure qui est assez engageante. Donc, il faut parfaitement mesurer les conséquences d'une telle signature. À l'inverse, la rupture conventionnelle ne peut pas être signée si aucun entretien n'a jamais eu lieu et si physiquement les parties ne se sont jamais rencontrées. Alors, à l'issue de ces entretiens, donc qu'il n'y en ait qu'un ou qu'il y en ait plusieurs, eh bien c'est un formulaire de rupture, une convention de rupture qui va être signée en 3 exemplaires. Et là, la jurisprudence a rappelé encore récemment que vous devez disposer d'un exemplaire. C'est une condition impérative, le salarié doit avoir son propre exemplaire. Donc il faut vraiment 3 exemplaires signés. Parce que, à défaut, la convention est nulle et on en revient aux sanctions dont je parlais précédemment. À compter du moment où la convention va être signée, eh bien, va commencer à courir un premier délai de 15 jours calendaires, qui est ce qu'on appelle le délai de réflexion. Et c'est une période pendant laquelle tant le salarié que l'employeur va pouvoir se rétracter et revenir sur son acceptation. Là encore, il s'agit de sécuriser le consentement et donc de donner au salarié un temps pour mûrir sa réflexion et éventuellement revenir en arrière si jamais il décidait que les conditions consenties ne lui conviennent pas. À l'issue de ce premier délai de 15 jours calendaires, eh bien, la convention va être envoyée à la direction du travail, donc à la directe. Concrètement, dans les faits, c'est l'employeur qui s'en charge la plupart du temps et l'administration du travail va homologuer la convention. Parce que là encore, pour sécuriser le processus de la rupture, c'est l'administration du travail qui va se prononcer sur la rupture. Dans les faits, la plupart du temps, l'administration du travail garde le silence, ce qui équivaut à un accord implicite de sa part. Donc, en réalité, il ne se passe rien, mais néanmoins, le contrat de travail est rompu à l'issue de ce nouveau délai de 15 jours, qui est un délai de 15 jours ouvrable cette fois. Donc on a un premier délai de 15 jours de calendaire, la convention de rupture conventionnelle vient d'être signée, le salarié et l'employeur peuvent se rétracter, mais la convention n'est pas encore partie à la directe, à l'inspection du travail. À l'issue de ce premier délai de 15 jours calendaire, l'employeur dans les faits fait partir la rupture conventionnelle, le formulaire de rupture conventionnelle. L'administration du travail dispose alors de 15 jours, cette fois ouvrable pour homologuer la rupture conventionnelle, avec, dans la plupart du cas, un silence qui équivaudra à une décision d'acceptation, à un accord implicite. Alors, que se passe-t-il maintenant si vous êtes d'accord sur le principe de la rupture conventionnelle, mais pour autant, vous souhaitez bénéficier d'une date de rupture du contrat de travail plus tardive? C'est-à-dire, on vient bien de voir que on avait ces 2 délais successifs de 15 jours, donc on peut considérer que la rupture conventionnelle, avec les délais postaux, va s'étaler sur 1 mois et demi de calendrier. Néanmoins, pour des considérations personnelles, vous souhaitez retarder la date de votre sortie des effectifs. Est-ce que cela est possible? Concrètement, oui, absolument. Et il est tout à fait envisageable que vous indiquiez avec votre employeur une date de sortie des effectifs plus tardive que celle de l'homologation et donc que vous prévoyez une date lointaine à 2-3 mois, plus encore. Voilà, donc les délais dont on vient de parler sont des délais de 2 fois 15 jours qui sont vraiment des délais minimums, mais on en revient au principe de liberté contractuelle et vous avez tout à fait toute latitude pour négocier avec votre employeur une date de sortie plus tardive dans le cadre d'un dispositif de rupture conventionnelle. Alors, ce premier épisode dédié à la rupture conventionnelle est maintenant terminé. Dans le prochain épisode, nous traiterons des sujets qui sont les suivants. Est-ce que stratégiquement, je peux avoir un intérêt à manifester ma volonté auprès de mon employeur de bénéficier d'une rupture conventionnelle? Est-ce que ce dispositif de rupture conventionnelle est un dispositif digne d'intérêt, notamment pour les salariés qui ont atteint un certain âge, et je pense à l'âge légal de la retraite? Et enfin, un des sujets les plus importants, quels sont mes droits en acceptant ce mode de rupture? Mes droits vis-à-vis de Pôle emploi, mais aussi mes droits, c'est-à-dire le régime fiscal et social des indemnités de rupture qui va s'appliquer. Autant de sujets dont on parlera dans le prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, je vous invite vivement à me laisser un message ou une note 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment le moyen le plus efficace de m'aider à faire connaître ce podcast et à le porter plus loin. Et n'hésitez pas à m'adresser des suggestions de thèmes sur mon adresse mail m.meolence@victoire-avocat au pluriel.eu. Merci de votre écoute et à bientôt.